Il faut faire l'application constante à soi-même des menaces et des promesses qu'on y rencontre. Il faut que chaque verset dont nous avons saisi la portée devienne pour nous le point de départ d'un progrès de la vie religieuse et morale. Avons-nous lu le récit des fautes commises par des hommes du passé? Demandons-nous s'il n'y a pas en nous les germes des vices qui les ont perdus. Lisons-nous au contraire le récit d'une action généreuse. Demandons-nous si nous ne devrions pas l'imiter. S'il y a dans les versets que nous avons lus des promesses, emparons-nous-en et faisons de ces paroles le fondement de notre espérance. Renferment-ils des ordres? Prenons-les sans retard pour notre règle de conduite. Sont-ce des prières que la Bible nous rapporte? Approprions-nous-les en demandant à Dieu les mêmes grâces qu'imploraient pour eux-mêmes les psalmistes et les apôtres. Et si un passage nous semble à première vue obscur et dépourvu d'intérêt, prions Dieu de faire en quelque sorte ressortir du texte à notre intention une parole qui nous donnera de la lumière et de la force. Fais de chaque parole que tu comprends une règle de conduite à laquelle tu t'efforces sur le champ de conformer ta vie. Et cette parole, se déposant dans ton âme comme une semence vivante, germera et portera beaucoup de fruits. Un seul verset lu chaque matin, mais sur lequel vous réfléchirez et prierez pendant la journée, que vous rumineriez en quelque sorte tout en travaillant pour vous en mieux nourrir, contribuerait bientôt à votre avancement spirituel et à votre bonheur. Le lecteur avisé de l'Évangile, mesdames et messieurs, est celui qui le lit pour le mettre en pratique. Le plus bel éloge qu'on pourrait faire de l'Écriture sainte serait de montrer par ses pratiques qu'on en révère jusqu'au plus petit point. Il ne s'agit donc point ici, disons-le encore une fois, des questions scientifiques et littéraires, mais de choses pratiques et spirituelles. Nous trouvons ridicule ceux qui, avec leur scalpel, cherchent l'âme humaine dans un cadavre. Il n'est pas moins absurde, messieurs, d'analyser, de décomposer chaque chapitre et chaque verset, chaque mot et chaque lettre de la Bible, pour chercher à découvrir si elle est de Dieu ou des hommes. Le grand physicien Faraday donnait une conférence sur l'analyse chimique d'une larme. Il y arrivait à cette conclusion qu'une larme n'est absolument rien d'autre qu'une goutte d'eau salée. Après avoir entendu cela, un jeune garçon, qui avait écouté très attentivement le discours du savant, s'écria en sortant, « S'il en est ainsi, je ne me tourmenterai plus autant quand maman pleurera. » Au seul point de vue de la science, n'avait-il pas parfaitement raison? Pourquoi se tourmenter et s'attrister pour quelques gouttes d'eau salée? Mais ce que la science ne peut ou ne sait pas dire, c'est que les larmes viennent du cœur et vont au cœur. La Bible aussi, messieurs, est beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'en dit la science. Elle vient de Dieu, et celui qui est de Dieu écoute sa voix. Lisons, mesdames et messieurs, lisons la parole de Dieu. Et à travers notre lecture, écoutons, entendons la voix de Dieu nous parler à nous personnellement. Mais ne nous contentons pas de l'écouter. Mettons-la en pratique. Obéissons-lui dans notre vie de tous les jours, dans le détail de chacune de nos journées, et qu'ainsi notre vie devienne le commentaire vivant de l'Évangile. On discutait de la valeur comparée des différentes versions de la Bible. Moi, dit quelqu'un, je préfère la traduction de Aner, 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 Aner.